Bonjour Cédric Villani.
Bonjour.
Vous êtes notre invité, vous qui avez reçu l'équivalent du Nobel en 2010, la médaille Fields. Vous souhaitez surtout l'existence d'un musée des mathématiques à Paris, car la transmission de cette science qui vous anime et vous passionne est indispensable à vos yeux. Vous allez nous en parler, mais d'abord, je vous propose d'écouter Victor Tribolas-Pierre. Bonjour Victor.
Bonjour Vincent.
Car vous allez nous parler d'un lien vieux comme le monde, si je puis dire, le lien fort qui existe entre les mathématiques et la musique.
Et oui, ce lien ne date pas d'hier, puisque dès l'Antiquité, la musique est associée aux mathématiques. Elle est même considérée par Pythagore au 6e siècle avant Jésus-Christ comme étant une science mathématique au même titre que l'arithmétique, l'astronomie et la géométrie. On cite souvent Pythagore comme l'un des pères de la théorie musicale. C'est à lui qu'on doit la compréhension des fréquences, c'est-à-dire des différentes hauteurs qui sont symbolisées par les notes de musique. Un travail que continuera des siècles plus tard Jean-Philippe Rameau avec son fameux traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels publié en 1722. Rameau y explique pourquoi deux notes superposées sont agréables à l'oreille alors que d'autres non. À la même époque, on peut aussi citer Jean-Sébastien Bach qui s'amuse à utiliser des procédés mathématiques pour écrire ses fugues en jouant avec la symétrie par exemple.
Alors la musique serait donc mathématique ?
Et c'est du moins ce que disait aussi Leibniz en 1712. La musique est un exercice caché d'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il est en train de compter. La musique, contrairement à la peinture ou la littérature, peut très précisément se traduire en équations et en graphiques, en tout cas pour ce qui est des caractéristiques techniques. Au XXe siècle, les compositeurs de musique savante cherchent à tout prix à se détacher de la musique tonale. Il faut trouver des nouveaux systèmes de composition. Exemple avec l'un des compositeurs les plus inclassables de la première moitié du siècle dernier, Béla Bartok. Il utilise le nombre d'or pour structurer ses compositions, c'est-à-dire un rapport proportionnel entre les durées des différents éléments d'une même pièce. Il est certainement l'un des premiers compositeurs à se servir de ce procédé de manière consciente. En résulte une structure cohérente qui paraît équilibrée, sans que l'esprit ne comprenne pourquoi d'ailleurs. On écoute un extrait du troisième mouvement du concerto pour piano numéro 3. Le nombre d'or également utilisé par Yanis Xenakis, compositeur grec et qui a une formation d'architecte et d'ingénieur. Il crée une musique nouvelle qui est constituée de masses sonores. Cela donnera Métastasis en 1955, une composition entièrement déduite de règles et de procédures mathématiques. Il a même créé des algorithmes pour tenter de représenter musicalement les notions de hasard et de probabilité.
Il n'y a pas que les compositeurs Victor qui se soient intéressés aux mathématiques. Je crois que la réciproque est vraie.
Et oui, de nombreux mathématiciens, physiciens sont également de grands mélomanes, voire de bons musiciens. On peut parler d'Einstein qui était un excellent violoniste, ou encore de la future directrice du CERN, Fabiola Gianotti, qui en plus de son doctorat en physique subnucléaire expérimentale, a également un diplôme professionnel du conservatoire de Milan en piano. On peut aussi parler de Karen Wursch qui, avant de devenir chanteuse lyrique, a fait des études poussées en physique quantique. Et c'est certainement là que réside le mystère qui a fasciné et qui continue de fasciner autant les mathématiciens, les physiciens, les scientifiques, au même titre que les compositeurs. L'émotion provoquée par la musique est-elle explicable, est-elle théorisable? À partir de quand arrête-t-on de parler de son pour parler de musique? La musique contemporaine basée sur des équations est-elle trop abstraite pour provoquer des émotions? Alors pour vous aider à réfléchir, Vincent, voici un extrait de The Well-Tuned Piano de Lamont Young, une pièce de 1964 qui dure entre 5 et 6 heures, où le piano est justement accordé en gamme naturelle selon les principes de Pythagore.
Victor, vous avez eu combien au bac en maths, vous ?
Je ne sais pas si je vais le dire, ça ne va pas faire plaisir à mes parents. Donc, j'ai eu une très très mauvaise note.
Oui. Oui. Combien ?
0,5.
Ça me plaît beaucoup cette histoire. Vous allez vous rattraper avec Cédric Villani qui va vous donner un cours express de 10 minutes. suis un peu vache, hein, Cédric Villani, mais c'est vrai que bon, j'étais pas non plus bon en maths, mais on a tous un souvenir, enfin pas tous d'ailleurs, mais on est un certain nombre à avoir un souvenir un petit peu traumatisant de ces cours de mathématiques. Ça doit vous faire de la peine de savoir ça.
Ouais, il y a pas de raison que cette discipline soit aussi universellement et souvent décriée. Alors, s'il y a des raisons quand même, l'exercice mathématique est un exercice délicat. Ici, vous nous avez parlé dans cette introduction des liens entre musique et mathématiques, mais la musique, c'est une forme qu'ensuite tout le monde peut apprécier. Que ça a été composé avec des principes mathématiques ou pas, comme vous avez bien dit, le principal, c'est que derrière, dans l'agencement des fréquences, il y a quelque chose que nous pouvons apprécier, des accords qui sonnent bien, des variations de rythme que tout le monde peut apprécier. Mais en mathématiques, il s'agit de formaliser les choses, de les conceptualiser, et ce n'est facile vraiment pour personne, et l'étape peut être complètement loupée.
Et vous, vous êtes un prof comment ? De quelle manière vous faites en sorte que vos élèves apprécient cette matière ?
Oh, moi, vous savez, j'ai eu que des grands élèves. Hein. J'ai enseigné uniquement à l'université, à l'École normale supérieure de Lyon, à l'université.
Donc des élèves
de
déjà
Lyon.
Acquis, des étudiants acquis.
Des élèves, des étudiants déjà acquis. Alors, il m'arrive régulièrement de faire des exposés pour des plus jeunes, des élèves de lycée, de collège, de primaire. Mais là, c'est différent, c'est pas un cours. Là, je leur raconte des histoires, je leur parle justement de ce qu'il peut y avoir de culturel en mathématiques. Je leur parle des aventures des grands mathématiciens. J'explique comment ça s'intègre dans des aventures culturelles, dans des aventures géopolitiques, dans des aventures technologiques.
Vous êtes plus dans le récit, dans le conte, dans l'histoire d'eux, mais quand il s'agit de faire une équation, là, vous ne pouvez pas inventer une histoire.
Oh, croyez-vous ! On peut toujours parler d'histoires pour raconter des équations. Et régulièrement, je montre à mes étudiants, aux élèves, des équations dérivées partielles, y compris celles sur lesquelles j'ai travaillé au cours de ma thèse. Il ne s'agit pas de comprendre le détail de l'équation, mais de comprendre ce qu'elle représente. Certaines équations vont représenter l'évolution des gaz, certaines vont représenter l'évolution d'une galaxie, certaines vont permettre de calculer le temps qu'il fera, certaines vont vous permettre de calculer les trajectoires des planètes, toutes sortes d'équations qui représentent des phénomènes physiques, des phénomènes biologiques, des phénomènes naturels et qui permettent de le rendre prédictible.
Ah, en fait, il faut ramener la théorie à quelque chose de concret qui peut toucher l'élève ou l'étudiant.
Pour certains, oui. Vous savez, tous les élèves sont différents. Mais pour certains, c'est très important de savoir à quoi ça sert l'équation, à quoi ça sert le concept même. Et puis pour certains, c'est une mise en scène. Pour beaucoup, le simple fait qu'on le rattache à des éléments culturels ou à des éléments historiques va le rendre plus sympathique. Alors régulièrement, je fais des exposés sur le thème mathématiques et art d'ailleurs. Ouais. Je parle aussi de ces liens entre mathématiques et musique, insistant sur le fait qu'il y a trois façons différentes de marier mathématiques et art. L'une sur laquelle vous avez insisté à travers les œuvres de Xenakis, par exemple, ou Bartok, c'est utiliser des règles mathématiques, algorithmiques pour produire quelque chose. Une autre, c'est non pas utiliser des règles, mais de s'inspirer d'une théorie pour aboutir à un résultat. C'est une approche utilisée par exemple, dans certaines des études de Ligeti, l'un de mes compositeurs favoris. Et puis, il y a une troisième approche qui va être la mise en scène de la mathématique. Ça a été moins essayé dans le domaine musical, mais ça a été fait de manière remarquable par des gens comme le photographe Man Ray, avec des photographies de modèles correspondant à des équations mathématiques.
Thank you. L'étude numéro 18, extraite du troisième livre d'études pour piano de Ligeti, interprété par Thomas L. au piano. Pourquoi aimez-vous à ce point Ligeti, Cédric Villani ?
Écoutez, l'amour, ça ne s'explique pas.
Oui, c'est venu tout petit, c'est venu à partir de quoi ?
Oula, non, j'ai découvert Ligeti sur le tard, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. De manière générale, même si j'ai fait du piano tout jeune, je me suis mis à écouter de manière intensive de la musique classique seulement... À partir de mes 18-19 ans. Alors après, ça a été très intensif. Il y a eu une époque où j'allais toutes les semaines au concert. Il y a eu une époque où j'étais président du club spectacle à l'École normale supérieure à Paris. J'achetais les places de concert pour les revendre. Je me souviens de pièces extraordinaires. Je me souviens de représentations du War Requiem de Britten. Je me souviens de tant et tant de concerts à la salle Pleyel. Bon, mais... Il y a un âge pour tout, hein, et puis il y a un moment où vous vous sentez plus ou moins bien en phase avec ça. Alors j'ai repris, je me suis remis à faire du piano de manière intensive à cette époque-là, à un moment où mes goûts musicaux étaient bien en phase. Le dernier morceau que j'ai travaillé sérieusement, c'était il y a 15 ans déjà, c'était la 6e sonate de Prokofiev, la première sonate de guerre.
Un musée des maths, c'est votre vœu, il pourrait prendre forme en 2018. Que verra-t-on quand on pénétrera à l'intérieur de ce musée des maths, voulu par Cédric Villani ?
Oui, alors, dans un musée, la première chose pour moi, ce qui compte, c'est le lieu inspirant, un lieu dans lequel il s'est passé des choses. Et ça sera mis en place dans un bâtiment historique, juste à côté de l'Institut Henri Poincaré, un bâtiment qui a été conçu et administré par Jean Perrin, le fondateur du CNRS, fondateur du Palais de la Découverte, découvreur des atomes, en tout cas celui qui a convaincu le monde entier de l'existence des atomes. Et donc, un lieu qui aura été le théâtre d'énormément de grandes aventures scientifiques et qu'on pourra raconter. Ensuite, moi je crois que pour parler au grand public, de la même façon que pour parler aux enfants, il n'y a que deux recettes qui marchent, c'est raconter des histoires et puis faire des jeux. Alors on racontera des histoires liées aux mathématiques et on fera des jeux liées aux mathématiques. Et les histoires, ça pourra être les histoires de grands mathématiciens, des histoires de grands concepts ou des histoires du monde autour de nous, vues à travers les mathématiques, donc des histoires de projets. On pourra par exemple décortiquer tout ce qui est de mathématiques dans une voiture, dans une exposition, ou bien parler de téléphonie, aussi bien sous l'angle de la montée de l'informatique que celle des réseaux, que celle de la théorie de la communication. Qui sait, hein, peut-être un jour nous montrons une exposition sur l'entropie, un de mes thèmes de recherche qui m'est cher.
Définissez l'entropie, s'il vous plaît.
L'entropie, c'est une notion qui parle de désordre. Vous me parlez comme un prof de maths.
Vous êtes en train de gagner sur moi.
Voilà. Alors, l'entropie, c'est une notion qui mesure le désordre et la difficulté à connaître l'état d'un système. Si vous avez un système physique, mais que vous pouvez mesurer seulement certains paramètres de ce système, et vous vous demandez comment il est en vérité à l'intérieur. Par exemple, un gaz, vous pouvez seulement mesurer la pression, la température, mais vous ne savez pas comment sont les molécules à l'intérieur. Eh bien, vous faites la liste de tous les états possibles, toute votre incertitude, et puis vous regardez la taille de ce nombre de possibilités, et ça, vous l'appelez l'entropie. C'était la définition du grand physicien Ludwig Boltzmann dans les années 1860. Et cette notion d'entropie, on la retrouve pour expliquer les propriétés des gaz, mais on la retrouve aussi dans la théorie de la communication de Claude Shannon. On peut calculer l'entropie d'une langue, comme le français. On utilise l'entropie pour calibrer les messages que s'échangent nos téléphones portables. On utilise aussi l'entropie pour comprendre les propriétés de la mécanique des fluides, pour comprendre les frottements. Et c'est une notion extrêmement inspirante. Ligeti fait explicitement allusion à l'entropie pour certaines de ses pièces, dont sa fameuse pièce étrange où ce sont énormément de métronomes qui battent d'abord en désordre, puis petit à petit qui s'arrêtent.
Eh bien, merci d'avoir été notre invité, Cédric Villani, de rêver aussi les mathématiques et de rêver à un meilleur accueil, peut-être aussi de la part des élèves et des étudiants en France, et aussi de rêver à une meilleure transmission par certains professeurs, en tout cas des mathématiques. Je tiens à préciser à maman Tribolaspierre que son fils a eu 20 sur 20 au bac en musique, ce qui rattrape
merci, Vincent.
Les maths. Merci à tous les deux.